Salut Frédéric, salut l'équipe de Blockbuster. Moi j'ai vu Titanic à sa sortie en 97, j'avais 9 ans, c'est mon premier vrai blockbuster au cinéma. Le dessin, les plans, la musique de James Horner, l'histoire véridique du paquebot. Moi j'avais jamais rien vu d'aussi captivant en termes de film et de cinéma. Et bon, aujourd'hui je peux dire que Titanic reste number one dans mon top 5 des blockbusters. Et quand je me repasse à la télé, ben, je peux pas m'empêcher de me poser devant, soi-disant juste pour regarder le début, hein. Et puis finalement, je finis par rester scotché à mon écran jusqu'à la fin. Donc, comme quoi la magie opère toujours des années plus tard.
Mon message, c'est de dire que le Titanic est le pire navet qui ait jamais été produit par l'industrie cinématographique. C'est épouvantablement mauvais. Voilà. Merci de m'avoir écouté.
Alors, je voulais te dire que Terminator 2, moi, c'est mon film préféré de tous les temps. C'est le blockbuster parfait. C'est le film qui a révolutionné les effets spéciaux au moment de sa sortie, où il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a absolument tout dans ce film. On n'a jamais fait mieux. C'est le film ultime et je suis super content que vous en parliez. Merci France Inter.
Le premier Terminator se passe en 84. Or, donc le Terminator vient du futur, et le futur, c'est dans 40 ans. On fait le calcul, 84 plus 40 ans, ça fait 2024. Donc, si vous voulez savoir à quoi ressemblera votre futur, regardez donc Terminator, parce que c'est dans 6 ans, et ça fout les pétoches. Je vous embrasse, bonne journée, ciao quand même.
To be or not to be, not to be.
La Bible. Franchement, on va pas se mentir, aucun livre dans l'histoire de la littérature n'a provoqué autant de commentaires ni déchaîné autant de passion. Regardez Le Seigneur des Anneaux. Bon, les fans de Tolkien, c'est une communauté super motivée. Mais ils se réunissent une fois de temps en temps, déguisés en Arwen et Aragorn, ils organisent des conventions, se font des marathons de films, mais ça reste assez petit joueur. Les fans de Harry Potter, pareil, ils se prennent en photo à King's Cross, ils font des compétitions de Quidditch, mais ça reste dérisoire par rapport à ce que peut faire un vrai fan de la Bible. La Bible a inspiré des peintres, des musiciens, des architectes, on a construit des églises, des cathédrales en hommage à la Bible. Les fans de Star Wars à côté, c'est des amateurs. Ils campent 4 jours devant un cinéma, ils ont l'impression d'être dévoués. Construire Notre-Dame de Paris ou le Sacré-Cœur, ça c'est des fans. Les fans de la Bible, ils ont même un état, des élus, ils ont une influence sur des lois. Aux États-Unis, ils jurent sur la Bible. 50 nuances degrés, le seul truc que ce livre a réussi à faire, c'est à augmenter la vente de cravaches à Decathlon. La Bible, franchement, moi quand je vois la fidélité des fans, j'ai qu'une chose à dire, respect.
France Inter, Blockbuster.
Jusqu'ici ça va.
Frédéric Sigrist.
Où cache-t-il, où peut-on le trouver ?
Paraît-il dans une étable.
Encore un qui se prend pour le fils de Dieu. Tiens, voilà tes $30.
Tenez, ceci est mon sang. Et toi, Judas, tu ne manges pas? Je n'ai pas très faim. Tu trouves que ce qu'il y a dans ton assiette n'a pas l'air catholique?
Pour sauver sa peau, il doit mourir.
Qui es-tu?
Jésus-Christ. Jésus-Christ, fils de Dieu. Et toi, qui es-tu?
Pilate, Ponce Pilate, fils de...
Fils de pute.
Toute sa vie, il prêchait le bonheur, la paix. La bonté, la justice était sa loi. Quand il reviendra, il nous pardonnera, comme il l'avait fait pour Judas.
Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Du haut de la croix, indique-nous le chemin, toi qui le connais si bien.
Allez, tous ensemble! Alors ça peut sembler surprenant de parler de la Bible comme d'un blockbuster, pourtant il n'est pas de livre plus vendu au monde, pas de texte n'ayant plus inspiré des artistes depuis des siècles et des siècles. La Bible ou les personnages qui la composent ont été l'objet de centaines de films, de comédies musicales, de pièces de théâtre ou même de sketchs. Alors il ne s'agit pas aujourd'hui de parler de la Bible comme d'un objet de culte ou de foi, mais parler de la Bible comme une source intarissable d'inspiration pour des artistes de tout genre. Alors pour parler de ce livre sans nul autre pareil, j'ai à mes côtés Anne-Marie Baron, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Alors Anne-Marie, vous êtes directrice du numéro Cinéma Action sur la Bible à l'écran.
Cinéma Action,
exactement. Et nous avons aussi à nos côtés Esther Degbé, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes journaliste pop culture au Huffington Post.
C'est ça.
Et évidemment, je vais le présenter une nouvelle fois, mais maintenant il a quasiment son rond de table.
Je refuse de partir.
Nico Pratt, journaliste pop culture chez Rokirama.
Bonjour.
Bonjour. Alors ensemble, on essaiera de remonter aux racines de ces adaptations cinématographiques bibliques. On tentera de comprendre en quoi Jésus est un formidable héros dramaturgique ou pas. On revisitera les grands détournements qui ont été faits de ces mythes connus de tous et on essaiera de répondre à cette grande question: pourquoi ce livre plutôt qu'un autre est propice à toutes les réinterprétations. Vous êtes bien sur France Inter et aujourd'hui dans Blockbuster, on est Bible.
Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et après cette lumière, Dieu créa la vie sur la terre. Puis Dieu créa l'homme, et l'homme reçut le pouvoir de dominer sur les choses de la terre, et celui de choisir entre le bien et le mal. Mais ne comprenant pas la sagesse de la loi divine, chacun se mit à agir selon sa propre volonté. L'homme voulut dominer l'homme. Le vaincu fut asservi au vainqueur. Le faible fut l'esclave du fort, et la liberté fut chassée du monde. Ainsi, les enfants d'Israël tombèrent sous la domination des Égyptiens. La rigueur de cette servitude leur rendit la vie amère, et leur plainte monta jusqu'à Dieu. Et Dieu les entendit, et déposa en Égypte, dans l'humble demeure d'Amram et de Jochébed, la graine d'un homme dont le cœur et l'esprit seraient empreints de la loi et des commandements de Dieu. D'un homme qui se dresserait seul contre un empire.
C'était bien évidemment un extrait des 10 commandements. Alors Anne-Marie Baron, est-ce qu'on peut retracer l'intérêt du cinéma pour la Bible ?
Ça commence avec le cinéma, c'est-à-dire que la première source d'inspiration du cinéma, c'est la Bible. Genèse. Donc, le premier film, c'est 1897, Alice Guy, et puis les femmes aussi. Hein. Ce sont les femmes qui ont inventé le cinéma, naturellement, c'est pas les hommes.
Évidemment.
Bon. Et bien, vous connaissez le film, et la femme créée à Hollywood. Donc, ce sont les femmes, Alice Guy Blacher, La Passion, 1897. Et puis après, on a de 1903 à 1913, on a une flopée de films bibliques. On a tous les personnages. On a Abraham, on a Cain et Abel, les frères ennemis, on a Samson et Dalila, tout. Et tous les plus grands réalisateurs, alors cette fois-ci les hommes quand même commencent à s'intéresser au cinéma, Louis Feuillade, Henri Andréani, Lucien Longuet. Je veux dire, je crois que la première source d'inspiration, ça a été justement ces grands textes de la Bible, et aussi d'ailleurs, je dois dire, les grands romans du 19e siècle qui sont inspirés de la Bible, c'est-à-dire Balzac, Zola, Victor Hugo et Dumas.
Alors initialement, c'est des adaptations très littérales des épisodes de la Bible.
Assez littérales, oui. Oui, effectivement, on essaye de coller, mais en même temps très théâtral, parce que le cinéma est encore très près du théâtre.
Oui, et alors à partir de quel moment on a commencé à se dire, tiens, c'est aussi un formidable vivier pour des réinterprétations? On a commencé à s'éloigner
tard,
un petit peu de...
Assez tard quand même. Simplement, je pense à un réalisateur comme Michael Curtis, qui fait deux versions de l'Arche de Noé, eh bien, lui, le truc qu'il trouve, c'est de mettre en parallèle l'histoire de l'Arche de Noé avec l'histoire contemporaine de la guerre. Et on a un va-et-vient constant entre la métaphore biblique de l'Arche de Noé et celle de l'actualité de la guerre. Donc ça c'est un premier truc, un premier angle d'approche.
Et est-ce que ces premières adaptations, ces premières réinterprétations ont tout de suite créé des polémiques ou est-ce qu'elles étaient plutôt bien perçues?
Ah non, là c'était très bien perçu.
Ça posait pas de problème.
Non, c'est que seulement quand on s'est occupé de Jésus que ça a commencé à dérailler.
Ah, Nico Pratt.
Les toutes premières adaptations d'ailleurs, celles qui datent de l'arrivée du cinéma, étaient d'ailleurs presque pour éteindre une polémique. C'était aussi pour prouver que le cinéma n'était pas un instrument du diable, en quelque sorte, en tout cas un instrument du mal, mais qu'il pouvait représenter les Saintes Écritures et donc être un instrument du bien. Donc au début, ils se contentaient de reproduire ça de façon très très littérale, ils suivaient le texte, et c'était pour éteindre la polémique, celle de la naissance du cinéma.
D'accord.
Et puis pour montrer que c'était pas un art frivole, hein, que c'était un art sérieux. Donc la littérature, la Bible, il fallait lui donner une légitimité.
D'accord. Eh bien, on va faire une petite pause musicale, mais on va rester quand même dans cet univers.
Alors rapidement, tourisme, à Bethléem, tous les records d'affluence sont battus. Il est impossible de trouver un lit. On cite même le cas d'un couple dont la femme attendait un bébé et qui n'a pu trouver de chambre. Le mari, charpentier, a dû conduire sa compagne dans une étable où celle-ci a donné le jour à un garçon.
Qu'est-ce qu'ils nous mettent comme conneries à la télé? Regarde ça. Un gosse qui est né dans une étable, qu'est-ce que ça nous fout?
C'est attendrissant, regardez comme il est mignon.
Oui, ça, il faudrait le voir dans 30 ans.
Mais c'est un garçon, c'est déjà ça. Ouais, mais c'est des conneries, il ferait mieux de mettre du sport. Un gosse qui est né dans une étable à Bethléem, franchement. Tu crois que ça va changer la face du monde, quoi? Bah quoi, j'ai dit une connerie? Un gosse qui est né dans une étable à Bethléem, ça va changer la face du monde?
Il est né, le devine enfant. Joue être un sister. Ce n'est que c'est qu'il est né, le devine enfant. Magnétoscopant cet événement. Il est né, le devine enfant.
Le père vivait bien tranquille, bon ouvrier, bon artisan.
Il est né, le devine enfant.
C'était le meilleur de la ville pour faire l'étable et les bancs.
Il est né, le devine enfant.
Tôt le matin dans son échoppe, avec le bois de l'olivier, par le rabot, par la varlope, il en oblissait son métier. Plutôt belle. Un jour il rencontre Marie. Jeune et jolie, douce et fidèle, il veut lui consacrer sa vie. Le voilà déjà qui installe meubles et tapis dans sa maison, qui repeint les murs de sa salle et met les plumes aux édredons. Passe et dit à Marie étonnée, je vous salue pleine de grâce et vous annonce un héritier qui va naître sans toit, sans âtre, sans drap, sans berceau, presque nu, près d'un bœuf que l'on va abattre et d'un âne qu'on a battu. Bien ainsi qu'en Palestine, la face du monde a changé. Qu'on prévienne les magazines et le journal télévisé. Sur la paille d'une cabane et sous le ciel de Galilée, ce jour entre le bœuf et l'âne, un petit enfant juif est né.
Un petit enfant juif est né.
Vous êtes toujours dans Blockbuster sur France Inter et c'était « Il est né, le divin enfant », une chanson tirée du film « 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ » de Jean-Yann, réalisé en 1982 avec Coluche et Michel Serrault.
Alors, votre boulot, c'est astrologue. Et lui, il est quoi, là ?
Capricorne.
Ah, Capricorne, hein ? Et c'est comment, ça ?
Mais il est le fils de Dieu, notre Messie.
Le roi des Juifs.
Et c'est Capricorne, ça, comme truc ?
Non, 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 lui seulement.
Ah, bah oui, je me disais aussi, sinon il y en aurait tout partout.
Quel nom souhaitez-vous lui donner ?
Brian.
Nous te vénérons, ô Brian, ô toi qui es notre Seigneur. Gloire te soit rendue, Brian, et au Seigneur, notre Père. Amen.
Esther Degbé, on vient d'entendre un extrait de La vie de Brian, des Monty Pythons, et c'est un film qui vous évoque beaucoup de choses.
Ouais, moi, pour moi, c'est un film hyper intéressant parce que ça montre que même à la fin des années 70, faire un film sur Jésus, sur la religion de manière parodique, c'est pas si simple, puisque c'est un film qui a failli être interdit totalement. Avant le début du tournage, EMI, qui est la maison de production qui produisait, qui devait produire ce film, se retire. Et donc c'est George Harrison des Beatles qui doit se, enfin qui adore les Monty Pythons et qui se dit je vais les produire quoi. Donc il crée totalement une boîte de prod pour produire ce film. Donc le film se fait et là, une fois sorti, c'est encore tout un tas de problèmes où il est interdit en Irlande quand même jusqu'en 1987, en Italie jusqu'en 1990. C'est quand même assez énorme. En Norvège, totalement interdit, et interdit aussi dans certaines communes en Norvège. Et puis il y a aussi le fait que le film, pour éviter toute forme de polémique, sort d'abord aux États-Unis. Mais là, une fois sorti aux États-Unis, ça crée encore pas mal de remous et on a énormément de gens qui manifestent. Et donc c'est assez intéressant parce que, comme on disait un peu plus tôt sur la genèse de ce type de film, on a commencé à parler de la Bible au cinéma parce que on avait envie de montrer que le cinéma n'était pas une chose légère. Alors que là, plus de la moitié du XXe siècle passé plus tard, on se rend compte qu'en fait, se moquer de la religion, se moquer des fanatiques, ce que fait ce film, c'est vraiment pas si simple.
Et alors, dans le film, pourtant, le nom de Jésus n'est jamais cité, on l'appelle Brian, on sent quand même qu'on est assez loin des textes canoniques. Donc, comment les communautés de chrétiens ont appréhendé l'arrivée de ce film ?
Alors, comment ils l'ont appréhendé ? Je ne sais pas vraiment, mais en fait, j'ai l'impression que c'est surtout l'aspect... on est vraiment dans la parodie, en fait. On reprend tous les codes de la religion. Jésus n'est jamais là, mais il y a des espèces de miracles. À un moment donné, Brian tombe du haut d'une tour. Il est rattrapé par quelque chose de complètement absurde, qui est un vaisseau spatial. On ne sait pas ce que ça vient faire là. Mais ça montre vraiment l'aspect un peu... ridicule des religieux. Et puis il y a aussi ce côté aussi on parle pas vraiment de Jésus, mais on parle des gens qui suivent Jésus en fait, et on se rend compte qu'ils sont totalement idiots et ridicules dans leur façon de suivre quelqu'un qui s'est juste mis sur un espèce de petit hôtel et qui s'est mis à parler. Enfin, Brian se retrouve un moment dans une situation très compliquée et il joue le Messie pour ne pas se faire prendre par les Romains. Et donc c'est là que tout le monde se dit ah ben voilà, un nouveau Messie, on va le suivre. Et donc on le suit coûte que coûte. Et c'est en fait de ça que se moque le film. C'est de cette façon de croire en Dieu, cette façon de croire en un Messie qui débarque de n'importe où.
Nico Pratt.
Et c'est en effet ce que dit le film. C'est avant tout un film, c'est une comédie évidemment, mais avant tout un film sur le fanatisme. Et en même temps, ça dit en substance que Jésus n'avait pas forcément quelque chose d'exceptionnel, puisque n'importe qui peut être Jésus s'il est né au bon endroit, au bon moment, et si au final il est entouré des bonnes personnes, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à être ses fidèles. Donc c'est ça aussi qui a énervé beaucoup plus que le traitement finalement humoristique, c'est qu'en fait, finalement, ils avaient en face d'eux un miroir pas du tout déformant qui leur disait « Regardez, vous êtes aveugle, ou pas d'ailleurs, enfin vous avez le droit de croire, mais ne croyez pas aveuglément. » Et ça n'a pas plu.
Alors, chaque adaptation de la Bible en film ou pièce de théâtre génère son lot de critiques. Chloé Brassière, qui est une grande fan des religieuses, surtout quand elle peut les manger, est allée demander aux gens ce qu'ils pensaient des adaptations de la Bible en film.
D'un sens, je me dis c'est bien parce que ça permet de montrer à d'autres gens que ce que c'est la religion. Mais dans un autre, c'est vraiment axé que sur une seule religion. Donc, est-ce que c'est vraiment bien pour les autres religions ? Après, personnellement, je suis athée, donc c'est pas moi que ça va déranger, mais je pense que pour certains, ils doivent se dire qu'eux aussi, ils mériteraient d'avoir un film avec leur religion.
Ça m'intéresse pas.
Je pense que c'est quelque chose qui est plutôt intéressant parce que finalement, les textes religieux, c'est quand même des livres qui sont importants dans la culture commune, sans parler forcément de prosélytisme religieux ou autre. Et ça reste quand même, finalement, d'une certaine manière, des mythes fondateurs sur notre société. Donc ça permet aussi de s'intéresser à d'autres cultures où, si on n'est pas forcément proche d'une certaine religion en particulier.
Bah, c'est bien, en fait. Il y a plein d'histoires dedans, quoi. Et puis, faut juste pas que ça choque les gens, mais d'un côté, c'est bien, parce que ça permet de voir ça d'une autre façon, quoi.
Pour moi, c'est de la propagande religieuse. Après, c'est comme de la mythologie, quoi. C'est selon ceux qui s'y intéressent.
C'est de la vulgarisation pour ceux qui veulent connaître la Bible sans avoir besoin de la lire. Après, bon, moi j'attends qu'une chose, c'est qu'ils adaptent le voyage de Jésus et Bouddha au cinéma, quoi.
Alors, je vous rappelle que vous pouvez tout le mois de juillet, via notre répondeur, nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Je répète, 01 56 40 30 20, sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire la Bible, les adaptations cinématographiques bibliques. Donc, n'hésitez pas, c'est aussi votre répondeur.
Il faut que je vous raconte l'histoire depuis le début, quand j'habitais encore chez mes parents. Dieu existe. Il habite à Bruxelles. C'est un salaud. Il est odieux avec sa femme et sa fille. On a beaucoup parlé de son fils, mais très peu de sa fille. Sa fille, c'est moi.
C'est un extrait du film Le Tout Nouveau Testament, un film de Jaco van der Mal, sorti en 2015. Jaco van der Mal, à qui j'ai eu le privilège de demander comment il avait eu l'idée d'un film racontant la genèse d'un Tout Nouveau Testament.
Attention, qui que vous soyez, attention.
Blockbuster.
Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Frédéric Sigrist.
Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza?
Sur France Inter.
Bonjour Jaco van der Mal.
Bonjour Frédéric.
En 2015, vous avez sorti Le Tout Nouveau Testament, un film d'un humour et d'une poésie rare, où l'on découvre que Dieu, interprété par Benoît Poulvord, ça ne s'invente pas, est un salaud qui passe ses journées à pourrir la vie de sa création jusqu'au jour où sa fille Ea décide de se venger de lui en diffusant aux hommes la date de leur décès par SMS. Alors je crois que la première question qui s'impose, c'est comment vous est venue l'idée d'un film aussi fou ?
Eh bien, c'est en se mettant pendant tout un été avec mon co-scénariste Thomas Gundlich autour de la table du jardin. Puis, à un moment donné, on avait en tête cette phrase de Woody Allen qui disait « Si Dieu existe, il a intérêt à avoir une bonne excuse ». Et ça, c'était un peu le point de départ. On a chatouillé un peu cette idée-là et on s'est dit « Mais effectivement, si Jésus avait une sœur ?» Parce que moi, j'ai une éducation catholique et c'est vrai que ça m'étonnait que le nombre de mots prononcés par des femmes... Ça, dans le Nouveau Testament, ça doit être 7 ou 8 mots. Tout le reste, c'est des hommes qui parlent. Et quand j'étais enfant, ce qui se passait à la maison ne ressemblait pas du tout à ça. C'était plutôt ma mère qui parlait. Donc on s'est dit, et si on faisait le 3 et que Jésus avait une sœur et que les femmes avaient la parole et que les femmes disaient quelque chose, quoi.
Oui, et si Jésus avait une sœur et s'il avait une mère également, interprétée par Yolande Moreau.
Également. Tout à fait. Qui peut-être est dans le film la seule vraie déesse, en fait, et que Dieu serait un peu un imposteur qui lui a piqué les clés de la salle de contrôle.
Oui, d'ailleurs, on voit que Dieu est incapable de vivre dans le monde qu'il a créé, parce qu'il l'a voulu lui-même, il ne s'aime pas. Qu'il est même incapable de faire des miracles, contrairement à ses enfants. Est-ce que y a une idée de dire que Dieu ne croit même pas en lui-même ?
Ah ben c'est un conte, hein. Donc ça parle d'un autre dieu, je pense, que les dieux dans lesquels les gens croient. C'est plus un film, en fait, sur le pouvoir et la domination qui existe dans les familles, qui existe entre les hommes et les femmes, qui existe dans la politique, qui existe dans la religion aussi. Et le contraste entre un dieu qui dit « obéissez, sinon vous serez punis » et sa fille de 10 ans qui dit « n'obéissez pas, il n'y aura pas de punition, le paradis c'est ici et maintenant » vous êtes des mortels, après ce ne sera pas mieux.
Mais là où ça m'a particulièrement parlé, c'est que dans le film, Ea, sa fille, la fille de Dieu, s'inscrit dans un conflit générationnel qui a commencé avec Jésus. Et c'est vrai que quand on regarde le Dieu représenté dans l'Ancien Testament et le Dieu qu'on nous présente dans le Nouveau Testament, on n'a vraiment pas l'impression d'avoir du tout les mêmes figures. Donc est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti et dont vous étiez conscient quand vous avez écrit le film ?
Oui, nous, on s'est plutôt inspiré du dieu terrible, le dieu qui punit, le dieu qui détruit. construit une ville qui demande à un père de tuer son fils pour prouver sa foi, des choses, enfin, c'est plutôt ça. Et bah voilà, il y a le fils qui lui est parti en catimini à travers le tuyau de la machine à laver pour quelque part donner un message révolutionnaire, quoi, qui était un autre message, qui était le message aimez-vous, quoi. Et donc ce qu'on a fait là, Jésus c'est le chic type qui s'est un peu voilà qui amène,
qui s'est opposé au père et qui s'est rebellé.
Oui, voilà, qui s'était déjà enfui et maintenant c'est à la petite sœur de se, parce que ça a mal fini pour Jésus, et donc la petite sœur va reprendre le flambeau, quoi, et trouver d'autres apôtres qui sont des époux comptes à qui elle va dire eh bien, votre vie n'est pas finie, il est temps de la vivre.
Je trouve que c'est un formidable mot de la fin. Je vous remercie encore, Jaco van der Mal. Et puis, bah, merci pour ce film, merci pour votre talent, merci pour la poésie qui s'en dégage. Et puis, voilà, bah, espérons que ça va nous aider aussi au quotidien à mieux apprécier la vie au jour le jour.
Merci Frédéric.
Anne-Marie Baron, vous vouliez me parler d'un rapport qu'on ignore assez souvent entre les films bibliques et le western.
Oui, alors curieusement, ça paraît curieux, mais à la réflexion, c'est évident. Parce que les colons américains se sont pris pour le peuple élu à la recherche de la terre promise. Donc c'est évident qu'on retrouve cette espèce de dimension biblique dans presque tous les westerns. Et alors, je voulais vous parler en particulier, puisque vous avez diffusé cette chose très amusante sur le Bethléem. Alors, on a toute une série de films, une dizaine d'adaptations de Three Godfathers, un roman de Peter Kane, dans lequel trois bandits qui viennent de dévaliser une banque et de tuer des gens dans la ville se sauvent dans le désert, sont morts de soif et à ce moment-là trouvent une voiture de caravane avec une femme qui vient d'accoucher et un bébé. Et donc, ils se retrouvent avec ce bébé dont ils ont la charge et la femme leur fait promettre de les conduire à la New Jerusalem. Donc là, on a vraiment un schéma biblique et ce sont, curieusement, là vraiment une réinterprétation, les trois mages qui prennent en charge Jésus. Alors, on a ça chez William Wheeler, deux fois chez John Ford et je veux dire, c'est un thème qui commence avec le muet. Le premier film parlant, c'est justement Hell's Heroes en 1930 de William Wheeler. Et après, ça va. On pourrait presque dire que ça va jusqu'à Trois hommes et un couffin de Colin Serrault. Voilà, les trois mages qui récupèrent le bébé, qui l'amènent à destination.
On peut même aller jusqu'à Superman. Et alors, c'est quelle partie de la Bible qui est privilégiée par les réalisateurs? Je vous pose la question à vous trois. Est-ce que c'est plutôt l'Ancien Testament avec Moïse, le peuple élu, ou plutôt la naissance de Jésus ou sa mort?
Il y a les deux. On a d'abord les films sur Jésus, il y a les films sur Jésus, dont la plupart sont sur la passion d'ailleurs. Il y a beaucoup de films sur la passion du Christ. Et puis on a, mais ce sont des films assez fidèles dans l'ensemble, sauf, on le verra peut-être après, deux films qui s'écartent du schéma. Et puis, quand même, la grande majorité des péplums sont des péplums de l'Ancien Testament. Hein. Ben-Hur, etc. Et donc, je veux dire, la Bible hébraïque est quand même plus inspiratrice parce que ce sont des gens normaux. Enfin, ils violent, ils commettent l'inceste.
C'est pas des gens normaux, hyper normal.
Je veux dire, ils sont humains. Ils sont humains. Ils ont des passions. Samson et Dalila. Enfin, David trompe sa femme avec Bethsabée, envoie son mari se faire tuer. Enfin bon, je veux dire, ce sont des gens qui ont des passions. Oui. Et ils sont dignes vraiment de grands films épiques.
Et justement, j'ai une question qui nous vient de Twitter. Sachant que la vague de péplum de la deuxième moitié, donc 50-60, des années 60, était une manière pour Hollywood de promouvoir les États-Unis en pleine guerre froide, faut-il voir ce retour au péplum biblique, actuellement, comme une volonté de réaffirmer leur identité sur un nouvel échiquier politique?
Alors, j'ai pas totalement la réponse, mais une partie de la réponse aussi, c'est que c'était pas uniquement pour la suprématie américaine, c'était aussi pour contrer l'arrivée de la télévision. Et un grand nombre, d'ailleurs, de grands films bibliques et donc des péplums de cette époque, des années 50-60, c'était aussi parce que Hollywood voyait d'un très mauvais œil l'apparition donc de cette petite lucarne qui, selon elle, allait sans doute contrer le cinéma, et c'est pour ça qu'ils se sont dit il faut qu'on investisse, il faut qu'on mette plus d'argent dans des plus grands spectacles. Et le gros avantage de la Bible, c'est que déjà tout le monde connaît l'histoire, donc forcément déjà on peut broder autour, mais en plus ça va attirer les gens qui aiment ces histoires. C'est libre de droit. Ça c'est quand même un des gros avantages. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'achat, il n'y a pas d'achat de droite. N'importe qui peut adapter la Bible absolument n'importe comment. Et donc voilà, ils avaient trouvé un vivier.
Et les auteurs critiquent rarement les adaptations.
Exactement. Il n'y a pas eu beaucoup de plaintes.
Et puis il y a l'invention du cinémascope. Hein.
Je veux dire, également.
Tout d'un coup, on a ces écrans immenses avec des troupes d'esclaves qui défilent, les pharaons, les magnifiques statues de Louxor. Enfin, c'est splendide. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Hein.
Esther Gigby.
C'est justement la promesse de quelque chose de spectaculaire, quoi. Donc, comme disait Nico Pratt, c'est vraiment le côté, la télé, ça fait un peu peur. Du coup, on met énormément d'argent dans de grosses productions. Et dans la Bible, il y a déjà tout ça. Tout le monde a envie d'aller voir Moïse qui ouvre la mer Rouge. Et donc, c'est hyper impressionnant. Et c'est pour ça aussi que ce sont des films qui marchent. Au-delà du fait que c'est vraiment le péplum, il y a toute la dramaturgie dedans, quoi. On a un personnage avec quelque chose qu'il veut absolument éviter ou quelque chose qu'il a absolument à faire avec des gros enjeux. Et puis il y a la morale à la fin. Voilà.
Comme les films de super-héros.
Vous écoutez France Inter, il est 11h36 et c'est l'heure des chiffres. Alors c'est une petite tradition, hein, voilà. Ah, Nico Pratt, il est content, hein. Dès qu'il y a un questionnaire avec des chiffres. Et alors, je vais vous donner des chiffres et vous me dites à quoi ça correspond. Alors, le chiffre 3, c'est en dizaines de millions le nombre de Bibles vendues chaque année dans le monde, le nombre de films dans lesquels Marie-Madeleine est représentée, ou le nombre de fois où Morgan Freeman a incarné la voix de Dieu au cinéma.
C'est ça, c'est Morgan Freeman.
Oui, c'est Morgan Freeman.
Bruce Tout-Puissant, la suite et la série documentaire.
Eh bien, c'est une bonne réponse, mais il y en avait deux.
Ah, il y a la première aussi.
La première, c'est en dizaines de millions le nombre de Bibles vendues chaque année dans le monde, dont 25 millions rien qu'aux États-Unis. Si je vous dis le chiffre 11, c'est le nombre d'années pendant lesquelles la vie de Brian fut interdite en Irlande, le nombre de hamburgers utilisés pour jouer la scène dans Jésus 2, le retour, ou le nombre d'Oscars remportés par Ben-Hur de William Wyler en 1960.
Les Oscars de Ben-Hur.
Les Oscars.
Esther, eh ben voilà, c'est une très très bonne réponse. Si je vous dis le chiffre 4, c'est en centaines le nombre de jours pendant lequel Noé a vogué sur la Terre, en dizaines le nombre de personnages que les Monty Pythons incarnent chacun leur tour dans la vie de Brian, ou en dizaines l'âge auquel Jésus est supposé être mort.
La deuxième, le nombre de personnages des Monty Python.
Eh bien, c'est effectivement le nombre de personnages des Monty Python.
Je commence à aimer ce jeu.
Mais voilà. Non, mais c'est bien, parce qu'en même temps,
bizarrement,
au fur et à mesure, on se rend compte que Nico, en fait, ce qu'il aime dans le jeu, c'est quand il gagne.
Exactement.
Comme tout le monde.
Tout le monde, hein, qui aime perdre.
Eh bien, on a gagné une chanson. Alors, c'est une chanson de William Z. Villain, avec son tout dernier titre, Uncle Bill Goes Hi-Fi.
Incredible guy, but I got some incredibly edible eyes. Thinking bad enough to end a little life like yours. So go finish up your chores. Go finish up your chores. Villain, you look bored. The
grows and twilight goes with nimble toes. The crops and rows designed to know the mortal dose of right and rose for all the schmoes. Can't read the prose, just watching shows. Don't catch the throes, don't examine their lives or ever gaze in the fire. And if you're living a lie, you can't be feeling so fine. Cause real folks must hide, cause so much in this world is fear and money, power and control and pride.
C'était Uncle Bill Goes Hi-Fi de William Z. Villain.
J'ai fait tellement de mal que je pars dans le désert et j'ai besoin que tu me pardonnes avant que je m'en aille, s'il te plaît.
Ah oui, je vois. Alors tu restes assis toute la journée avec les autres. Et ensuite t'arrives la tête basse en disant pardonne-moi. Si tu crois que c'est facile. Et si t'as besoin de miséricorde, pourquoi tu viens la chercher ici?
Excuse-moi, c'est parce que je...
Mais sors d'ici, va-t'en!
Écoute, Madeleine, Dieu peut changer cela. Dieu peut sauver ton âme.
Il m'a déjà brisé le cœur le jour où il nous a séparés. Dieu et toi, vous me faites horreur.
Déteste-moi, blâme-moi, ce sont mes fautes, mais pas celles de Dieu. N'adresse aucun reproche à Dieu.
Blockbuster, Frédéric Sigrist.
I am your father.
Sur France Inter.
Alors la religion est un domaine qui dépend de la sphère privée généralement. Pourtant des gens semblent avoir une vision très très précise de la manière dont on doit ou on ne doit pas dépeindre le Christ. Et quand malheureusement ça ne leur convient pas, eh ben ces gens-là, ils aiment pas.
J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas.
Qu'est-ce qui est choquant pour l'Église dans le film de Scorsese?
Je crois qu'avant même d'avoir vu le film, ce qui est choquant, c'est de mettre en scène le Christ dans des situations qui ne correspondent pas à ce qu'il est.
Pour moi, c'est pas normal de montrer Jésus nu sur la croix.
C'est une véritable offense envers Dieu.
J'estime pour ma part qu'une attaque contre le Christ, Christ présenté comme un homme avec un fantasme réducteur, est pour moi condamnable, bien entendu.
On ne peut pas faire de Jésus, qui est l'ami et le vivant pour tous les croyants, l'objet de fantasmation. C'est pas l'œuvre d'art qui est en question, mais c'est le respect d'autrui.
Sur les Champs-Élysées, changement de ton. On a jeté de la peinture dans l'escalier du cinéma Gaumont et deux femmes agenouillées protestent en disant leur chapelet.
J'aime pas, j'aime pas.
Alors Esther Degbé, Anne-Marie Baron, on le voit à chaque fois qu'on tente de représenter Jésus sur grand écran ou sur scène, ça pose problème. Alors étonnamment, Moïse, tout ça, ça a l'air de passer plus facilement.
Parce qu'ils sont vraiment des personnages transgressifs. Ils sont à la fois saints, sacrés, prophètes, tout ce qu'on veut, mais ils sont transgressifs, ils sont fragiles, ils sont humains. Tandis que, évidemment, Jésus, comme il est stéréotypé, c'est-à-dire qu'il a vraiment un personnage qui ne doit pas bouger. Alors, dès qu'on change quoi que ce soit, ça scandalise. Mais La Dernière Tentation du Christ est un film magnifique, parce qu'après tout, il prend simplement la liberté de dire ou de mettre en image l'idée que Jésus, sur la croix, pouvait avoir un dernier doute et peut-être un dernier regret de n'avoir pas profité de la vie, de n'avoir pas peut-être épousé Marie-Madeleine. de ne pas avoir mené une vie d'homme normal, quoi.
Esther Degbé.
Moi, je poserais plutôt le côté humain d'un personnage comme Moïse au côté sacré de Jésus, qui est vraiment un peu le socle commun de tous. Et c'est vraiment, c'est un peu comme le représentant de Dieu sur Terre. Et c'est une chose à laquelle il faut pas toucher. Et si on y touche, il faut le faire de manière très, très, très respectueuse. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on change la moindre chose, ça déplaît, ça crée de la critique, de la polémique. On l'a un peu vu avec la Passion du Christ en 2004, par exemple. Ça a fait énormément, énormément de polémiques autour de ça, parce qu'il y avait déjà une représentation historique qui était pas tout à fait juste, avec rien que par le langage, où les Romains parlaient latin, alors qu'en fait ils sont censés parler grec. Il y a eu pas mal de critiques, même Paul Verhoeven, justement, qui travaillait à l'époque sur une version de Jésus-Christ de Nazareth, a dit qu'en fait c'était une version psychotique de Jésus. Donc il y a vraiment quelque chose de sacré auquel il faut pas toucher. Et qui crée tout de suite beaucoup beaucoup de réactions très vives autour de Jésus. Et je pense que c'est parce que justement on touche pour de vrai à la religion quand on touche à Jésus, alors que pour Moïse c'est plutôt des histoires d'hommes en fait, pour ce genre de personnage-là.
Et puis la Bible hébraïque est considérée comme une mythologie, tandis que les évangiles, non, ils sont pas considérés comme une mythologie, mais comme un livre divin, sacré, intouchable. Et Jésus c'est le Fils de Dieu, tandis que dans la Bible il y a que des prophètes. Hein.
Oui.
Il n'y a que des prophètes. Enfin, de Dieu, on entend juste sa voix, c'est tout.
Et Nico Pratt, pourtant, le commerce des films basés sur la Bible, c'est un business juteux aux États-Unis. Il y a même toute une région qui vit de ça.
Exactement, c'est une région qu'on appelle la Bible Belt. C'est situé, grosso modo, c'est le sud-est des États-Unis. C'est une région extrêmement croyante. Et il y a un grand nombre de films qui, chez nous, la plupart du temps, sortent directement en DVD, voire sont tout simplement introuvables, qui sont produits avec cette région en ligne de mire. C'est-à-dire qu'ils ont des sorties exclusives. Vous vous souvenez, Bienvenue chez H.T. était d'abord sorti dans le Nord, puisque c'était un film qui parlait du Nord de la France. Et bien là-bas, c'est pareil, ils ont des pré-sorties, ils découvrent les films en exclusivité. Des films donc qui tournent autour de la religion. L'un des plus récents et des plus emblématiques, c'est un film qui s'appelle God is Dead, qui a rapporté plusieurs millions de dollars. Personne n'en a jamais entendu parler ici chez nous. Et donc voilà, il y a toute une industrie qui se crée autour de la Bible Belt. Et pour la petite anecdote, la Bible Belt, c'est entre autres là-bas qu'en 1966, John Lennon a déclaré dans une émission de radio en Alabama que les Beatles étaient désormais plus grands que Jésus-Christ. Est-ce que, et voilà, il y a eu un immense scandale qui s'en suivit, est-ce que s'il l'avait dit ailleurs, la petite phrase serait passée inaperçue, j'en sais rien.
Vous allez m'aider à éliminer quelques mensonges qui polluent le bouquin le plus important qui existe.
Un bouquin de cul ?
La Bible.
Qu'est-ce qui ne va pas dans la Bible ?
Oh, trois fois rien, je suis pas dedans.
Ouais, nous on n'y est pas non plus, mais on en a rien à branler, c'est bon.
Ouais, mais pour moi, c'est pas pareil, je suis le 13e apôtre.
Je suis allée à l'église toute ma vie et j'ai jamais entendu parler d'un 13e apôtre du nom de Rufus.
Ouais, mais tu connais les 12 autres. Ce sont tous des blancs. C'est pas un hasard si moi je suis pas dedans. Moi, Rufus. Et pourquoi ça? Parce que je suis pas blanc, voilà. Mais tout ça, c'est pas le problème. Ce qui m'intéresse, c'est de rectifier cette magistrale erreur qui est la pierre sur laquelle est bâtie votre église.
Voyons ça.
Qu'est-ce que vous croyez? Jésus est un black.
Si c'est vrai, alors pourquoi il a eu la parole et toi jamais?
Eh ben lui, c'est le Fils de Dieu.
Et c'était un extrait, évidemment, de Dogma de Kevin Smith. Alors maintenant, on arrive à l'heure du blind test de Blockbuster. Alors, un blind test spécial, les dieux sur petit ou grand écran. Alors, on vous passe la musique et on voit si vous arrivez à retrouver la série ou le film. Extrait numéro 1.
Au premier jour du monde, le monde était peuplé d'êtres immondes. C'est dégoûtant, répugnant,
géant. Oui, Esther Degbé, bonne réponse, c'est Hercule. C'est Hercule, la version Walt Disney, dans lequel Hercule est un dieu et absolument pas le fruit d'une relation extra-conjugale entre Zeus et Alcmène, l'épouse d'Amphitryon. Son suivant. Vous connaissez la musique? Vous nous donnez le nom du film? Un film dans lequel il y a des dieux?
Il y a des dieux?
C'est un classique, un grand classique celui-ci.
Je hais les blind tests.
Langosha.
Alors, c'est Jason et les Argonautes.
Ah, Jason, bien sûr. Ouais.
Le prochain va être beaucoup plus simple.
Ouais.
C'est Ulysse.
Esther Degbé, nouvelle bonne réponse, bravo. Ulysse 31. Alors, son suivant. Un autre grand classique qui a subi un remake, je dis subi.
Ben-Hur.
Non.
Les 10 commandements. Je
sais pas, non.
Je vais dire la Bible à chaque fois, attends, ça va peut-être tomber.
Si je vous dis...
remake.
Libérez le Kraken.
Oh, l'attaque des... le clash des titans.
Le choc,
le choc
des titans.
Le choc des titans.
L'attaque des titans, c'est un manga.
Oui, bah oui, oui, titans. Les titans. Les titans.
Ah, j'adore ce film. La représentation de l'Olympe dans ce film est extraordinaire.
Oui. Et c'est d'ailleurs la figure de Zeus dans ces films est souvent assez proche d'une représentation presque biblique.
Tout à fait.
Liam Neeson jouait Zeus.
Oui.
C'est ça.
Ouais. Dans le remake.
Oui, oui, dans le remake, oui.
Dans le remake, oui.
Pas son plus grand rôle.
Son suivant. Esther Degbé, j'étais sûr. Mes yeux se sont tournés vers elle parce que je savais qu'elle allait. Voilà.
Bien joué.
Elle est très très bonne.
C'est surtout qu'on a, à peu près la même culture. Et enfin, ultime son. Nico Prat, t'as des convulsions.
Ah oui, mais je ne connais que ça.
Oui. Mais vraisemblablement, ça vous empêche pas de trouver.
Voilà.
Voilà. Ça j'adore. Ouais, c'est toute ma vie. C'est quoi?
Je sais pas.
Il a un marteau.
Mais c'est Thor.
Thor, évidemment.
J'étais pas sûr pour ça, les Avengers.
Mais moi, je pense que quand même que là, la grande gagnante, c'est quand même Esther Degbé.
Ah oui.
Ah, il n'y a pas de débat.
Sans conteste, vraiment. On s'incline. Et ben, Esther, vous avez gagné une chanson. Et cette fois-ci.
Yes.
Oui, bah, c'est le service public non plus.
Que vous ne choisissez pas.
Je suis très, très contente.
Donc, c'est El Niño du duo parisien Jojoa et Lieutenant Nicholson. Alors, ça vient de sortir. C'est un mélange de funk, d'afrobeat et de pop française. On écoute.
La pluie ne tombe pas,
y'a pas d'eau,
la neige qui fond là-bas,
ça c'est chaud,
arrêtons les débats,
là c'est chaud,
il frappe ici et là,
El Niño.
C'était El Niño de Jojoa et Lieutenant Nicholson.
Blockbuster, Frédéric Sigrist, sur France Inter.
Alors depuis quelque temps, on est en train d'assister à un revival des gros films bibliques sur grand écran. Il y a Exodus de Ridley Scott,
Noé de Darren Aronofsky.
Comment expliquer ce retour ou une autre version de Marie-Madeleine, oui, avec Joaquin Phoenix, je crois.
C'est ça, et Rooney Mara.
Oui.
Et c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit que comme le péplum était vraiment un genre porteur, il revient, mais sous une forme différente. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre les grands héros Jésus, Moïse et compagnie, on prend les satellites, c'est-à-dire Judas. Judas dans le film de Rabat Hammer Zaymesh. On prend Marie-Madeleine dans le film de Garth Davis. Ou on prend Paul dans le film de Andrew Hayat et T.G. Burden. Donc on prend des comparses, si on veut. Et comme on a moins de sources finalement sur eux, on a des évangiles apocryphes, on a des choses comme ça.
Donc plus de liberté.
Plus de liberté, ce qui est la condition de toute adaptation, hein, c'est d'avoir des points aveugles sur lesquels on peut broder. Et c'est des personnages sur lesquels... Alors par exemple, Marie-Madeleine, dans le dernier film, n'est plus une prostituée du tout. C'est une femme qui a été considérée comme folle parce qu'elle voulait pas se marier. Et donc ses parents veulent l'exorciser uniquement parce qu'elle ne veut pas se conformer aux normes sociales. C'est-à-dire, donc c'est une femme libre, c'est la première femme libre de l'histoire. Ça c'est formidable comme et ça montre que elle tombe amoureuse de Jésus. Ça quand même, on peut pas l'éviter. Hein. Joaquin Phoenix, c'est irrésistible. Mais je veux dire, elle en même temps, c'est elle qui est la fondatrice de cette religion, finalement, c'est pas Jésus.
Donc en fait, on réutilise ces mythes pour parler du statut de la femme actuellement, pour en fait moderniser des vieilles figures.
Oui, alors par exemple, Marie-Madeleine est la seule à avoir compris dans le film que l'avènement du royaume, c'était pas, comme le croyaient naïvement les gens, qu'une transformation du monde magique et extraordinaire, c'était que chacun de nous avait à l'intérieur de lui-même un royaume qu'il devait mettre en valeur et cultiver. Et ça, c'est une idée extrêmement moderne et en même temps très, très religieuse, enfin, je veux dire très, très, très porteuse sur le plan religieux.
Et alors, la Bible a effectivement été l'objet d'énormément d'adaptations, mais c'est pas le seul livre religieux qui existe, et pourtant les autres ont beaucoup moins d'adaptations. Comment on explique ça ?
Quels autres ?
Le Coran, la Torah.
Le Coran, non, mais la Torah, c'est la Bible.
Oui, oui, oui.
Le Coran, on n'ose pas. Personne n'ose.
Et est-ce qu'on pourrait espérer un jour voir...
Ah mais ça, moi, je peux pas m'aventurer là-dedans, parce que c'est trop risqué.
C'est trop dangereux.
A priori, oui, c'est a priori assez casse-gueule. Les producteurs risquent pas de se lancer là-dedans.
Mais donc ça n'arrivera jamais.
Non.
Pas pour le moment, en tout cas.
Il y a bien une apparition de Mahomet dans un épisode de South Park de la saison 5.
Ça s'est très mal passé, je crois.
Voilà, ouais. Ils étaient avec d'autres prophètes, avec tous les autres prophètes, pour avoir une sorte d'équilibre quand même. Oui, mais c'est une des rares occurrences qu'on trouve à ce sujet.
Sinon, il y a vraiment une sorte de c'est le tabou ultime actuellement.
C'est un truc, ça ne se fait pas.
Ça ne se fait pas. Voilà. Eh bien, écoutez, on est en train d'approcher la fin de notre émission. Alors, j'aimerais quand même faire une toute petite parenthèse très rapide. Hein, vous savez, si vous êtes auditeur régulier de Blockbuster, que je suis un passionné de comics de longue date. Hein, depuis 10 ans, les super-héros tels qu'Iron Man, Hulk, Captain America, Black Panther sont sortis des pages de comics pour le grand écran, avec le succès que l'on sait. Et à l'occasion de la sortie d'Ant-Man et la Guêpe, le prochain film Marvel Studios le 18 juillet prochain, France Inter et Marvel se sont associés pour réaliser 7 podcasts originaux sur les dessous de cet univers concoctés par ma camarade Charline Roux et une équipe de spécialistes du sujet. Alors je ne saurais que trop vous conseiller de télécharger ces podcasts sur franceinter.fr, et pour les fans esselés de DC Comics, n'ayez crainte. L'équipe de Blockbuster est en train de vous préparer une émission spéciale Batman, Superman et Wonder Woman pour la fin du mois de juillet. Donc voilà, c'est la fin de cette émission, une émission qui a été préparée par Céline Hila à la réalisation, Marie Mougin et Chloé Brassière à la préparation de l'émission aidée de Prudence Castello. La programmation musicale est signée Thierry Dupin, et à la technique aujourd'hui, Ronan Mahé
Gilles
Gaillard. Voilà. Bonjour Dorothée.
Et bonjour à tous.
Le débat de midi, c'est juste après le journal de midi, figurez-vous. Oui. Et on parle des cirques et des zoos aujourd'hui avec cette question. Faut-il en finir avec les animaux spectacles? J'attends les réactions des auditeurs sur le site de France Inter à la rubrique Le débat de midi. À tout de suite.
À tout de suite.